Le problème n'est pas là.
Francis Gosselin.
Ça sonne comme une arnaque.
J'ai-tu une bonne logique, moi, là?
Mario Dumont.
Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
La rencontre. Gosselin. Dumont.
Salut Francis.
Salut Mario.
Alors, tu fais de l'économie avec le sujet politique du jour, la démission d'Émilie Lessard-Terrien.
Ben oui, quand même. J'ai trouvé qu'on avait cassé beaucoup de sucre sur le dos de GND puis de Émilie elle-même. Tout ça. Puis je trouve que finalement, on a somme toute pas vraiment parlé beaucoup des enjeux. Puis, tu sais, il faut rappeler quand même qu'elle a été élue comme étant la candidate des régions, mm-hmm. de la ruralité. Puis, tu sais, tu te rappelleras aux dernières élections quand même, là, QS avait quand même très, très mal fait dans ces régions-là. Et une des raisons pour ça,
Mais QS n'a jamais percé. En fait, Rouyn-Noranda, Témiscamingue, c'est le seul comté en région.
Ils ont eu Sherbrooke, des Sherbrooke, pourra-t-on dire. Mais
ouais, mais Sherbrooke, c'est pas vraiment en région. Je considère pas que Sherbrooke, c'est rural.
Je suis d'accord.
C'est une grosse ville, une moyenne ville universitaire.
Là, je voulais en venir, Mario, avec tout ça, c'est que tu te rappelleras qu'il y avait quand même cette idée, puis là, je veux pas reprendre à mon compte les appellations politiques des autres, mais les taxes oranges, hein, puis ces taxes oranges-là, notamment la taxation sur les véhicules lourds, la fiscalisation des héritages au-dessus d'un million de dollars, ça ciblait en grande partie les gens des ruralités, là, évidemment. Tu t'imagines bien, Mario, que
ben, 15%... Tous ceux qui n'ont pas de transport en commun, partant.
Oui, oui, puis surtout, évidemment, des pick-up, puis tout ça, là, c'était sur les grosses cylindrées, là, donc c'est essentiellement viser les gens qui achètent des pick-up, puis j'ai trouvé une carte aux États-Unis. En tout cas, je ne sais pas si on peut voir à la maison, mais où est-ce qu'on achète des Ford F-150, Mario, aux États-Unis? Là, c'est dans le milieu.
C'est dans la ruralité.
C'est dans le Midwest, c'est dans la ruralité. Donc, essentiellement, sur ce point-là, Émilie Lessard-Terrien avait un job à faire. Ouais. Je pense qu'elle n'a pas finalement réussi à faire changer le parti.
Mais donc, toi, tu dis les politiques économiques, les politiques de fonds de QS sont plus difficilement réconciliables avec les régions.
C'est absolument ma croyance.
Mais tu vois, en Europe, mettons en France, ouais. là, t'as une ruralité communiste, là.
Oui.
Non, mais tu sais, dans les Pyrénées, pis tout ça, là, ça va.
Ouais.
Non, mais tu sais, des agriculteurs très, très paysans. Ils appellent les paysans là-bas avec des petites fermes, puis qui sont très, très à gauche, là, contre le commerce international, contre la mondialisation.
Mais c'est là où, justement, je pense qu'il y a différentes visions de la gauche, là, puis c'est pas une nouveauté que de le dire, mais qui s'affrontent dans cette histoire-là qui se déroule sous nos yeux, là, chez Québec solidaire. On a un parti de gauche au Québec qui est un parti d'intello de centre-ville, tu sais, donc qui veulent de la bicyclette, des petits espaces, de la densité, de la grosse fiscalité sur les gros héritages, et ultimement, qui ne comprennent pas la réalité de ce qui se passe en dehors des ponts montréalais, et donc qui sont un peu là. Puis pour moi, c'est par-delà le patriarcat, là, puis les chicanes individuelles entre GND et ELT. Pour moi, c'est l'incarnation de cette déconnexion-là, mais de ce pari qu'a fait le parti orange, là, le parti de Gabriel Nadeau-Dubois, de tout miser sur la ville. Puis ultimement, la ville, malheureusement, ça a ses limites. Hein, je veux dire, tu peux prendre toute l'île de Montréal, ultimement, ça te donnera pas une majorité en chambre. Puis ça va quand même être assez difficile, je pense, pour eux de prendre le West Island, là, aux dernières nouvelles.
À Montréal, ça quand même installés. Ouais, ils ont agrandi la tâche orange. Je veux dire, ils sont rendus avec plusieurs circonscriptions. Puis ils ont bien installé leur...
Et après ça, si on élargit un petit peu la conversation, Mario, je pense qu'il y a quand même aussi, encore une fois, une opposition entre une gauche, puis tu parles de la France, qui est très intéressant. Moi, j'ai habité en France, je suis la politique française depuis longtemps. La gauche française, c'est... Bon, là, depuis Hollande, ça a un peu changé, mais ça a été historiquement une gauche de gouvernement, une gauche qui était capable de ménager la chèvre et le chou, de faire des politiques...
C'était plus le PQ, mettons. Au Québec, c'était plus le PQ que QS.
Alors, et donc, qui est un parti qui veut être élu. Puis je pense qu'entre nous, là, sans être dans les grandes confidences, je pense que GND, à un moment donné, Gabriel Nadeau-Dubois, a fait le pari que peut-être qu'il pourrait un jour être élu, ce parti-là. Et je pense que le problème avec lequel il est confronté, notamment du point de vue fiscal, politique, économique, etc., c'est qu'il y a toute une frange du parti qui s'en fout d'être élu. Il veut juste, entre guillemets, avoir raison. C'est-à-dire qu'ils ont leur idéalisme, ils ont leurs espèces de croyances.
Ils veulent pas avoir raison. Ils ont raison. Ils veulent que les autres comme toi s'en rendent compte
un
jour.
Exactement. Donc, ça mène à des politiques économiques qui n'ont pas de maudit bon sens, que ce soit sur le logement, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur plein de notions de fiscalité, sur même une compréhension de ce qu'est la richesse. Là. Tu sais, ces histoires d'ultra-riches à un million de patrimoine, Mario, on aurait cru lire des affaires écrites dans les années 70. Donc, tu sais, dans la mesure où ils vont maintenir cette espèce d'illusion puis d'incompréhension fondamentale économique, je dois tristement dire que je pense qu'ils n'ont aucune chance de remporter des gains. Puis là, on va voir, mais tu sais, franchement, là, ça ne va pas bien pour cette formation-là. Je ne serais pas surpris qu'aux prochaines élections, ils perdent de nombreuses plumes là, à l'Assemblée nationale.
On parle de fiabilité chez Hydro-Québec parce que l'année qui s'est terminée a été l'une des pires en 15 ans.
Oui, ben c'était dans le Journal de Montréal, puis évidemment, là, c'est une des pires depuis longtemps. Puis bon, c'est intéressant, Mario, parce que ça avait été annoncé déjà par Michael Sabia, mais là, clairement, le monopole d'État énergétique au Québec va faire des efforts importants là, pour redresser cette situation-là. Puis je pense que, sans vouloir dire, là, ça se prévoit longtemps d'avance, hein, ces travaux-là. Et donc, je pense que l'année qu'ils viennent de vivre, là, ils le savaient que ce ne serait pas une bonne année. Ils avaient déjà anticipé que ça se passerait mal. Et là, ils vont pratiquement doubler le budget d'entretien, puis ça va être encore augmenté dans les prochaines années. Donc, ça,
c'est couper des branches. Essentiellement, c'est ça. Là, ouais, c'est couper de la végétation qui, quand il y a du verglas, tombe sur les fils.
Entretenir le réseau.
Changer les poteaux.
Changer les poteaux, exactement. Puis, enfouir à certains endroits
changer
également.
Changer des transformateurs. Ouais, ça a l'air qu'il y a des vieux équipements là, qui sont toutes limites en termes d'âge.
Puis deux choses là-dedans, Mario. Je veux bien croire là, qu'il y a des bons gestionnaires là-dedans, puis des bons ingénieurs, mais comment est-ce qu'on s'en est rendu là? T'sais, est-ce qu'il y a des raisons politiques, des raisons économiques, des raisons managériales qui expliquent ça?
Mais il y a Michael Sabia, il l'a mis... Mais quand il a fait... Je ne sais pas si tu te souviens, il est devenu président, c'était au mois d'août, puis il a fait tout de suite, genre 6 semaines après, un premier énoncé de priorité. Avant d'écrire son document d'orientation... Puis tout de suite, dans son premier énoncé de priorité, il l'avait mis tout de suite en numéro 1, là, la fiabilité.
Oui, tout à fait.
Ça veut dire que lui, à l'interne, il y a du monde... Il n'a pas deviné ça de l'extérieur. Quelqu'un à l'interne, il a dit, monsieur Sabia, je vous dis, il y a des problèmes. Il y a quelqu'un, il y avait une conscience, à l'interne que là, ça va pas.
Mais ma question pour toi, Mario, c'est est-ce que ces mêmes gens-là qui ont vite signalé ces enjeux-là à monsieur Sabia, ils ne le signalaient pas avant à madame Brochu, puis avant à monsieur Martel? T'sais, comment ça se fait que
c'est un mystère.
Mais c'est pas un mystère. À un moment donné, il y a des gestionnaires quelque part.
Il y a des incompétents.
Ou qui ont priorisé d'autres choses, on va le dire comme ça. Puis, ultimement, je ramène ça notamment à la dimension politique. Puis, je pense que dans la mesure où monsieur Sabia s'entend bien avec monsieur Fitzgibbon, ce qui semble être quand même un peu la règle du jeu, le gouvernement doit accepter qu'ils vont faire moins de recettes de la part d'Hydro-Québec dans les prochaines années. Parce que là, quand on augmente de quasiment 100 millions de dollars le budget lié à la réfection des infrastructures, ça enlève ça directement de la ligne d'en bas. Et donc, c'est de l'argent de moins qu'Hydro-Québec va verser à l'État dans les prochaines années. Et c'est pas des petites sommes. Donc, ça doit se négocier entre quelque part, entre la gestion d'Hydro-Québec, donc le PDG et ses principaux vice-présidents, mais aussi le volet politique pour réduire simplement la part là, au budget de l'État québécois.
Tu veux revenir sur ces propos d'une vice-présidente de la SAQ qui disait, bon, il faut faire le ménage dans les tablettes, on a trop de produits québécois. Ouais. T'as l'impression que ça va faire mal à certains joueurs.
Je sais que à quelque part, on a un peu perdu le contrôle dans les micro-distilleries. Là, on parle de gin et d'autres produits québécois. Moi, personnellement, je suis un grand fan de cette industrie-là, Mario. J'en ai acheté tout plein, j'ai dégusté le Saint-Laurent.
C'est juste que il y en a trop pour vrai. Même quelqu'un comme toi puis moi, tu peux pas acheter un gin, c'est pas comme une bière. T'achètes pas un gin par fin de semaine. Tu sais, c'est une bouteille, des fois, tu bois ça sur un an ou deux, mais tu sais, une bouteille de gin, quand t'en as plusieurs,
C'est ça. Ben moi, à un moment donné, j'étais sur une chire, je pense que j'en ai acheté une vingtaine de bouteilles,
mais
là, je pense que j'en ai plus racheté depuis.
Mais c'est pour des années.
Effectivement.
Là.
L'enjeu, Mario, évidemment, c'est bon, ça a explosé à vraiment à un moment donné, il y avait 10 distilleries, il y en a maintenant 70. Là. Tu peux t'imaginer qu'on multiplie par 7 le nombre de distilleries. L'enjeu, évidemment.
Puis qui font chacune plus de produits, parce que là, ils font des produits aromatisés.
Sans alcool, avec alcool, petit alcool, gros alcool, à base d'algues, là. T'en as une belle, la Saint-Laurent, dans le bas du fleuve. Bref, tout ça pour dire que ce qui est quand même intéressant, puis j'ai écrit un papier dans le journal ce week-end sur la SAQ, là, puis bon, j'ai cassé un peu du sucre sur leur dos, mais pour moi, Mario, c'est juste dans la mesure où on n'a pas vraiment de concurrence sur ce segment-là au Québec, ça fait que la SAQ, de manière unilatérale, dit on va couper un tiers de notre inventaire, et bien, tu sais, démerdez-vous avec ça. Puis là,
ça veut dire qu'ils vont tuer...
Ben, c'est sûr, je trouve ça fou qu'on donne à une seule organisation sur un peu un coup de tête, où tu sais, on ne sait pas vraiment les raisons, sans devoir aucune explication à personne, de mettre en faillite probablement une petite dizaine, voire une vingtaine d'entreprises.
Pourquoi Tidjo de Portneuf, lui, il meurt, puis l'autre,
pas lui. On nous dira qu'il y a des appels d'offres. Non, mais c'est de la bullshit. Fait que pour moi, encore une fois, j'en parlais avec Richard Martineau ce matin, mais je trouve ça, dans la mesure où il n'y a pas de concurrence au Québec, il faut prendre très sérieusement le rôle de la SAQ de faire et défaire ces marchés-là.
Et je pense que toi et moi, on n'aime pas tellement quand l'État a le droit de vie ou de mort.
De tuer des business ou d'en faire. Puis, tu sais, la faute est dans l'avoir permis à 70 ministres de se créer. À la limite, il aurait fallu agir avant.
Ben oui. Voilà. Donc voilà. Hey, merci Francis.
À demain.